J'ai donc été contacté par GlobeNet pour faire un point sur les domaines qui semblent gêner GlobeNet vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire essentiellement d'une part les logs de connexion, la conservation des données, et d'autre part la responsabilité vis-à-vis des contenus. Je voudrais bien qu'une chose soit assez claire, parce que ce que vous ressentez, à mon avis, est assez normal. Il y a une contradiction dans les termes, hein, entre droit et Internet. C'est un petit peu comme droit international. De la même manière que le principe de souveraineté nationale s'oppose à l'existence d'un droit international, la technologie de l'Internet s'oppose à l'existence d'un droit de l'Internet. L'Internet, c'est transfrontalier, le droit ne supporte pas. L'Internet, ça change tout le temps, ça aussi, le droit ne supporte pas. Pour vous donner un exemple, il y a une loi qui s'appelle la loi, vous connaissez sans doute, sur l'économie numérique. Cette loi transpose une directive de l'an 2000. Cette directive de l'an 2000 a basé ses travaux sur des données qui datent de 98, qui prenaient elles-mêmes en référence, comme point de référence, l'année 97. C'est-à-dire que cette loi qui est rentrée en vigueur dans la deuxième partie de l'année 2004 régentait l'Internet à partir de sa réalité technique de 1997. Utile de vous dire qu'à cette époque-là, le mot blog n'existait pas et que les modems, c'était du 33,6K. Donc, les problèmes que le droit va poser à Internet et les problèmes que l'Internet va poser au droit, ils ne seront pas résolus ni aujourd'hui ni demain. Dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'obligations que le droit a imposées sur l'Internet et qui, sur les hébergeurs et sur les fournisseurs d'accès, pèsent particulièrement. La première de ces catégories, c'est la conservation des données. C'est ce que je vais examiner en premier, en vous rappelant qu'il y a deux impératifs différents qui gouvernent ce régime, la conservation des données, deux impératifs contradictoires. Le premier, c'est un impératif de confidentialité. Ce sont des données personnelles. Ce n'est pas nouveau pour ce qui est de faire un registre, mais c'est tout à fait nouveau pour ce qui est de devoir le conserver sur support informatique. La France est le premier pays au monde à s'être doté d'une législation de conservation des données personnelles. Ça date de 1978. Et c'est arrivé dans un contexte très particulier, qui était le contexte de la découverte des fichiers de la police de Vichy. C'est dans cet esprit-là que la France s'est dotée donc d'une loi d'informatique et liberté, que vous avez sans doute entendu parler, et qui oblige, d'une part, à ne pas croiser les fichiers, l'administration, et d'autre part, à faire en sorte que les données nominatives ne soient pas divulguées, soient protégées. C'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif, c'est un dispositif de répression. C'est dès les années 1980, je crois que c'est en 84 exactement, le coût de la fraude électronique a dépassé le coût de toutes les autres fraudes cumulées pour les compagnies d'assurance. On m'a dit qu'il y avait un problème. Et le coût de la fraude sur Internet est assez élevé, sans conservation des données. L'Internet devient une jungle idéale pour les malfrats en tout genre. Pas de traces, pas d'identification, pas de preuves. Alors c'est vrai que dans un monde idéal, on ne devrait pas avoir à conserver les données, mais assez vite, la conservation des données est apparue comme un moyen essentiel pour lutter contre la criminalité sur Internet. Quel qu'en soit le fantasme, c'est une réalité sociale et économique. Maintenant, le fait de devoir conserver les données, c'est évidemment insuffisant. Un malfrat qui veut vraiment commettre ses méfaits sur Internet, ce n'est pas la conservation des données qui va l'en empêcher. Mais l'ambition d'une loi, ce n'est pas une efficacité matérielle. Aucune loi n'empêche matériellement de voler une voiture. La loi, ça fixe un cadre qui empêche que le plus grand nombre se comporte comme des malfrats. Maintenant, une dernière chose, ce qui est particulièrement gênant dans le cadre de la conservation des données et qu'on trouve très fréquemment dans le droit de l'Internet, c'est que la loi oblige des acteurs privés, des personnes, à une mission de service public. C'est une constante. On retrouve la même manière que les hébergeurs deviennent responsables de contenus qu'ils doivent juger diffamatoires ou pas, être formés une contrefaçon ou pas. De la même manière, c'est à vous de conserver les données, alors que normalement, il devrait y avoir un service public du dépôt légal des données, par exemple, ou quelque chose comme ça. L'État devrait fournir ce genre de moyens. Il ne le fait pas, et donc c'est à des acteurs privés vous, des associations, des entreprises, de faire cette tâche de conservation des données, ce qui est un peu anormal. Maintenant, si vous examinez un certain nombre de contrats d'hébergement privés, vous verrez que de grandes sociétés s'arrogent des prérogatives qui sont bien au-delà de ce que la loi limite ou permet quant à la conservation des données, à l'autorisation de faire ce qu'ils veulent sur les contenus et ainsi de suite. Alors on va essayer de voir maintenant quelles données pour quelles infractions. Je vous rappelle qu'il y a trois grands types d'infractions. La grande criminalité, d'une part, c'est elle qui légitime tout le reste. Alors, la grande criminalité sur Internet, c'est quoi? C'est le terrorisme, c'est la pédophilie, c'est l'incitation à la haine raciale, c'est la contrebande, et ainsi de suite. Voilà. C'est de loin, de très très loin, ce dont on entend le plus parler, et de très 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 loin, la frange la plus petite. Ensuite, nous avons la délinquance moyenne. C'est le véritable enjeu, sans doute. C'est-à-dire la contrefaçon, l'escroquerie, le phishing, l'atteinte au droit à l'image, les dénigrements commerciaux, l'imitation de marque, le spamming. C'est-à-dire c'est le tout venant de la grosse infraction sur Internet classique. 90% des cours. C'est elle qui est visée principalement par les mesures légales. Enfin, nous avons ce qu'on appelle la micro-délinquance. La micro-délinquance, c'est celle qui représente à peu près 90% des comportements, cette fois-ci. C'est-à-dire la diffamation privée ou publique. Ils sont quand même mais des centaines chaque jour de diffamation sur le réseau Internet français. Des violations involontaires du droit d'auteur, des téléchargements illégaux, n'en parlons pas, des injures publiques. Je vous rappelle quand même que le mot « con » est une injure et qu'il y a eu une condamnation en septembre 2005, encore une fois, pour avoir traité par écrit quelqu'un de con. C'est vous dire à quel point on est quand même assez... on fait sans arrêt le grand écart en droit de l'Internet. Alors, de la même manière, les définitions de la diffamation sont telles que quelqu'un qui reproduit simplement, par exemple, les récentes déclarations d'un pape, il est condamné pour diffamation. Aujourd'hui, vous reprenez, vous citez les déclarations de Benoît XVI qui ont valu un petit peu une certaine émotion, vous allez être condamné pour diffamation, vous personnellement, pas Benoît XVI, vous. Sachez-le. Le régime de la diffamation est quelque chose que les gens connaissent assez peu, en règle générale, et qui est très inadapté à la réalité de la publication sur Internet. Alors, sachez que la grande criminalité sert de justification politique, et que la micro-délinquance, la petite diffamation, à peu près, tout le monde s'en fout, jusqu'au jour où le professeur, qui en a marre d'être insulté, traité de on ne sait De tous les noms sur un intranet de lycée se rebiffe et finit par flanquer une baffe à l'élève, et c'est comme ça que ça peut. Bon, voilà. Mais la vraie délinquance, et celle qui coûte le plus cher, c'est ce que j'appelle la délinquance moyenne, l'escroquerie, la contrefaçon. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est en jeu. Alors, quelles données, maintenant, après quelles infractions? Pour les fournisseurs d'accès à Internet, dans le premier temps, il y a tout ce qui concerne l'identification volontaire. Pour les fournisseurs d'accès Internet, c'est le contrat. Ce qu'on appelle identification volontaire, c'est donc je m'abonne à Internet, je m'appelle Monsieur Dupont, je remplis mon contrat, voilà. Ça fait partie des données à conserver. Vous ne serez pas très étonné, je pense. Pour les hébergeurs, il s'agit du formulaire obligatoire d'identification des titulaires de sites. Donc un titulaire de site, vous ouvrez un site sur Internet, c'est un hébergeur, donc... par exemple, GovNet, vous devez déclarer, si vous êtes une personne physique, votre nom, votre prénom, votre domicile, votre numéro de téléphone. Si jamais vous êtes ou non assujetti à l'inscription au registre du commerce, et auquel cas votre ou des métiers, et auquel cas votre numéro d'inscription, bref, si vous êtes artisan. S'il s'agit d'une personne morale, l'équivalent pour les personnes morales, le siège social, le numéro de téléphone, le RCS, et ainsi de suite. Vous devez indiquer le nom du directeur ou du co-directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93.2 de la loi numéro 82.652 du 29 juillet 1982. On peut continuer comme ça assez longtemps. Sachez qu'il y a un nombre de déclarations que vous n'allez vraisemblablement pas faire, mais qui est assez important et duquel il faut retenir qu'un titulaire de site doit déclarer au moins son nom et toute personne qui va, de manière usuelle, intervenir sur le site. C'est ce qu'on appelle le directeur ou le co-directeur de l'application. Un site doit également indiquer le nom, la dénomination sociale, la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone de l'hébergeur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identification volontaire. Alors, il y a quand même un bémol, il est de grande taille, fort heureusement. Tous les sites qui ne sont pas professionnels peuvent faire l'économie de pareilles déclarations publiques, à condition de la déclarer de manière privée, par contre, à l'hébergeur. En d'autres termes, je fais un site qui s'appelle Ma chemise bleue, je ne suis pas forcé de donner mon nom, mon adresse, et ainsi de suite. Mais je dois l'avoir donné à mon hébergeur. Ces données sont supposées être sincères. Ça veut dire que je dois m'appeler moi-même. Je ne peux pas m'appeler d'un autre nom que le mien. C'est là qu'on touche la limite de ce genre de mesure, parce que il est évident que tout fraudeur ne va pas déclarer son propre nom. Or, dans un arrêt récent de la Cour d'appel de Paris, un arrêt qui est extrêmement sévère, un hébergeur qui n'avait pas vérifié que ses données étaient véridiques, le formulaire d'enregistrement, donc on correspondait bien à la personne, cet hébergeur s'est fait condamner pour contrefaçon. Alors, il est vrai qu'en l'espèce, les données étaient très très fantaisistes, il s'agissait d'une contrefaçon de bande dessinée, et le type s'était appelé, habité rue de la BD, il avait donné un code postal qui n'existait pas, et ainsi de suite. Néanmoins, l'hébergeur a été condamné pour ne s'être pas rendu compte que ces données étaient fantaisistes. Ça pose un gros problème. Parce que il y a un autre texte de loi qui dit que l'hébergeur n'a pas à surveiller les données qui lui sont transmises. Il n'est pas assujetti à ce qu'il faudrait appeler une obligation de flicage. Hein. Il n'a pas une obligation générale de rechercher, je cite le texte exact, des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Or, une fausse déclaration est un fait ou une circonstance révélant une activité illicite. Il n'a pas l'obligation de s'en rendre compte. Néanmoins, donc, d'une manière assez bizarre, il a été condamné par la Cour d'appel de Paris. Et ce qui prouve que on n'est pas dans cette matière, même en ayant, en étant protégé par un texte de loi, à l'abri de la décision d'un juge bizarre. Cette jurisprudence, elle n'est pour l'instant pas confirmée par la Cour de cassation. Si elle l'était, il n'est pas impossible qu'il faille aller voir au niveau des instances européennes, à la Cour européenne des droits de l'homme, pour être précis, si cette décision devait être maintenue. Les prestataires, c'est-à-dire vous, donc les hébergeurs ou les fournisseurs d'accès Internet, sont assujettis au secret professionnel. Ce secret professionnel est sanctionné pénalement. Je vous rappelle que le secret professionnel n'est plus aujourd'hui seulement l'affaire d'un médecin, d'un huissier, d'un avocat. N'importe qui peut être tenu à un secret professionnel, c'est en raison de son activité. Et la violation du secret professionnel est un délit. Par conséquent, vous avez un secret professionnel sur les données qui sont des données de déclaration personnelle qui vous sont confiées. Ce secret professionnel n'est évidemment pas opposable à l'autorité judiciaire. En d'autres termes, si c'est le juge qui vous le demande, et lui seul, vous pouvez le lever. Voilà pour ce qui est des premières données, c'est-à-dire les données de déclaration volontaire. Alors, les autres données sont bien sûr les données que vous loguez automatiquement. Alors, je vous cite le texte de loi. Les fournisseurs d'accès hébergeurs détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou d'un des contenus. Donc, le but est de permettre d'identifier quiconque a modifié ou créé un contenu Internet. C'est-à-dire, pour un hébergeur, concrètement, il faut garder la trace de tout upload, tout téléchargement montant. Bref, tout upload passe par FTP ou HTTP. Voilà ce qu'un hébergeur doit loguer. Ce qui nous pose un petit problème, qui a été évoqué dans une réunion préparatoire, c'est les contenus modifiés online. Les forums, les réponses de blog, les wikis. Techniquement, il faudrait réaliser un log des connexions. qui pose un énorme problème. Parce que techniquement, ça veut dire qu'il faut loguer l'adresse de toute l'adresse IP de toute personne qui remplit un form, un formulaire, la balise form, parce que vous ne pouvez pas savoir, vous hébergeur, pourquoi le formulaire est rempli. Vous ne pouvez pas savoir si il va modifier un contenu ou pas. À ce moment-là, ça veut dire que vous devez à peu près loguer toutes les actions de quiconque intervient sur un site. On ne sait pas où est la limite. Je vous le dis, là, on est dans le vide. On est dans le vide juridique. La seule chose dont on soit sûr, c'est que les uploads FTP, HTTP, il faut les loguer. Mais est-ce qu'un jour, on ne pourra pas vous poursuivre pour n'avoir pas logué les données de quelqu'un qui remplissait un formulaire et qui donc ainsi a modifié un contenu online? Je ne le sais pas. Techniquement, si on rapproche le texte de droit de cette activité, oui, il faudrait le loguer. Aucune affaire de droit n'est jamais venue dire, préciser la limite de ce qu'un hébergeur a à loguer. Il est évident que si vous deviez loguer toute activité de quiconque intervient sur le site, l'hébergeur aurait une masse de données telle que ça deviendrait pratiquement infaisable. Mais ça, le législateur ne s'en est pour l'instant pas rendu compte. Pour les fournisseurs d'accès, il s'agit de tous les logs de connexion, mais non des contenus. Bon, c'est-à-dire, là, c'est assez simple, hein, parce qu'il y a une liste, c'est-à-dire l'adresse attribuée au connecté, la ligne téléphonique, les caractéristiques système, toutes les adresses IP qu'il visite, l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion, la géolocalisation, au cas échéant, les numéros appelés et appelants, la durée des communications, etc., etc. Il y a un décret qui est d'ailleurs paru récemment, mais qui vise essentiellement les opérateurs de téléphonie mobile, répertoriant les tarifs pour la requête de fournir chacune de ces données. Cela inclut aussi le journal des mails, c'est-à-dire les adresses d'envoi et de réception. Et Paribas, ainsi, a été condamné pour n'avoir pas révélé de quel poste de son intranet est parti un mail qui était dommageable et qui s'est avéré litigieux. Alors, troisièmement, maintenant, nous allons examiner la durée et les modalités de cette connexion, de cette conservation, pardon. La première chose, c'est combien de temps ? Un an. C'était fixé en décret en mars 2006. Il y a différents textes et des différentes législations européennes, il y a différents projets. C'est pas encore certain, mais si vous tablez sur la durée d'un an, personne ne pourra vous dire vous emmerdez en France actuellement. Ça changera peut-être. Dans l'état actuel, en France, la durée de référence, c'est un an. Un an de conservation. Si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au début, un an c'est 365 jours, 366 c'est l'année bissextile. Bref, 367, vous devez effacer les données en vertu de la loi informatique et liberté. Vous avez donc deux obligations totalement contradictoires qui se suivent dans le temps. Une obligation de conservation et en suivi d'une obligation de destruction. Ça, c'est assez bizarre hein, comme système, puisqu'il faudrait imaginer une loi, par exemple, qui vous obligerait à conserver toutes vos factures, mais ensuite à les détruire. C'est pourtant le cas. Qui peut demander accès à ces données ? C'est-à-dire qui peut vous ne plus y avoir accès ? Qui peut lever le secret professionnel ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le rappelle, c'est le juge, évidemment. Donc, lorsqu'il y a eu, de la part d'un magistrat, une décision demandant à un fournisseur d'accès ou à un hébergeur de fournir telle donnée, vous êtes obligé de le faire. Si vous ne le faites pas, vous êtes fautif. Mais depuis une modification inclue dans un certain nombre de lois, enfin de textes de loi visant le terrorisme, aujourd'hui, des policiers également peuvent vous le demander, à condition qu'ils aient obtenu l'accord d'une commission administrative, et même d'une personnalité nommée par cette commission administrative, pour agir dans la prévention du terrorisme. Voilà. Concrètement parlant, c'est quand même pas extrêmement fréquent. Hein. Pour le reste, ces données ne doivent pas être accessibles, personne ne doit les connaître, de simples précautions techniques, pratiques, doivent suffire à cet égard. Alors, il y a quand même une chose qui est un petit peu... qui n'est pas très claire dans ce que je viens de vous dire, c'est qui doit conserver ces données. Qui est un hébergeur ? L'hébergeur est défini par la loi purement à raison de son activité. La loi définit comme hébergeur une personne qui assure, à titre privé ou gratuit, ou pas, à titre privé ou public, gratuitement ou pas, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons, de messages, de toute nature. Ce qui signifie qu'un particulier qui ouvre chez lui un serveur Apache et qui installe un PHPVB dessus, par exemple, c'est un hébergeur. La loi recoupe sous la même définition des réalités qui n'ont absolument rien à voir concrètement, sauf simplement cette activité technologique. Un intranet est un hébergeur, et même depuis la décision Paribas que je vous citais tout à l'heure, un fournisseur d'accès, comme un fournisseur d'accès Internet, un cybercafé ou un spot Wi-Fi. Légalement, c'est la même chose. Alors tout ça est un peu bizarre parce qu'effectivement, on va devant un paradoxe. Tout ça n'a jamais été jugé. Ce sont des résultats de travaux législatifs qui seulement maintenant commencent à être mis en place. Bon, concrètement parlant, où le fournisseur d'un spot Wi-Fi se verra condamné parce qu'il n'a pas demandé à quelqu'un sa carte d'identité et qu'il ne l'a pas notée, ou bien il sera relaxé, si cette affaire arrive un jour. Jusqu'à présent, seuls les gros hébergeurs ou fournisseurs d'accès ont été poursuivis dans des affaires de conservation de données. Mais tout le monde sent bien qu'il y a un vrai problème pour assujettir aux mêmes obligations le café du coin qui offre une connexion Wi-Fi aux personnes qui viennent consommer. Comment est-ce que le père de famille qui va monter un réseau pour ses enfants va-t-il loguer l'éventuelle connexion des amis de ses gosses, d'un voisin qui passe dans la rue? Comment est-ce que, avec quelle pièce d'identité, le propriétaire du salon de thé va vérifier l'identité du client? Bon. Comment va-t-il gérer ensuite le secret professionnel qui s'impose à lui et qui, s'il est violé, est un délit? Bon, de deux choses l'une, hein. Ou les magistrats refuseront l'application à la lettre de ces critères à des particuliers, ou alors ils les appliqueront dans toute leur rigueur. On n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a une loi qui est assez mal fichue et que ça va être aux magistrats et aux instructions qui seront données au parquet éventuellement de trancher le nœud gordien de cette loi. Voilà. Je sais que tout cela est un petit peu absurde dans la mesure où, en plus, il suffit de passer par un proxy pour héberger dans un paradis Internet, dans un paradis fiscal, pour échapper à toutes ces mesures. Donc, on ne sait pas, techniquement et même juridiquement, ce qui va en advenir. Je vous ai fait simplement le point de ce qu'il en était avec les absurdités que cette loi induit. J'en viens maintenant à la deuxième partie qui concerne les responsabilités liées au contenu. Alors là, c'est un peu plus simple. La première chose, c'est les contenus illicites. Un contenu doit être retiré s'il est manifestement illicite. C'est-à-dire, je suis désolé de vous répondre encore une fois qu'on ne sait pas. J'ai pondu plus de 200 pages pour expliquer qu'on ne le savait pas. Hein, et actuellement, personne n'a été capable de me dire le contraire, ce qu'est un contenu manifestement illicite. Où est la frontière? On ne sait pas. Ça pose même un problème d'intelligibilité de la loi. Alors, concrètement, oui, les insultes racistes, la pornographie des mineurs, la négation de crimes contre l'humanité, l'appel au meurtre, l'utilisation évidemment frauduleuse d'une marque notoire. Okay. La vente de substances illicites, vous vendez le produit de votre cannabis artisanal, l'atteinte au droit à l'image, la violation flagrante du droit d'auteur. Mais il y a plein d'éléments limites, comme la diffamation, et c'est à l'hébergeur d'apprécier si ce contenu est manifestement illicite pour savoir s'il doit le retirer ou pas. Pour retirer un contenu, il faut soit une décision de justice, soit que quelqu'un, un quidam, n'importe qui, vous le demande. N'importe qui peut demander aujourd'hui à ce qu'un contenu soit retiré de l'Internet. Pour que cette demande puisse être prise en compte, le quidam, qu'on appelle le notifiant, doit fournir quand même pas mal de choses. Il doit fournir son nom, son prénom, date et lieu de naissance, sa nationalité, son adresse postale complète, son adresse de courriel, son numéro de téléphone. Il doit également décrire le contenu litigieux et il doit décrire, et ça c'est le point le plus intéressant, quelle violation de droit ce contenu opère. En d'autres termes, si c'est une contrefaçon, si c'est une diffamation, si c'est une injure, etc. Tant qu'on n'a pas ça, on n'est pas forcé de retirer le contenu et la plupart du temps, la plupart des dénonciations ne contiennent pas ces mentions. Donc c'est une loi qui protège quand même relativement bien, malgré tout, par ce biais-là, l'hébergeur. C'est-à-dire qu'avant d'avoir une dénonciation en bonne et due forme, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Enfin, il faut évidemment prouver son identité. Ça veut dire qu'une dénonciation, j'emploie à dessein le terme, c'est quand même de la dénonciation, de contenu, doit être accompagnée d'une copie de pièce d'identité. Donc, en recommandé, ça met du temps. Cette loi a été faite, contrairement à ce qu'on pense, pour assurer les hébergeurs, en fait. C'est assez difficile de mettre en pratique, par un coup d'âme, la dénonciation d'un contenu en remplissant toutes ces formalités de fond, en visant exactement au fond en quoi le contenu est illicite. Il faut que vous sachiez que l'une des seules affaires qu'il y a eu de demande de retrait de contenu l'a été pour quand même violation de crime contre l'humanité, enfin négation de crime contre l'humanité. Il s'agissait du génocide arménien, c'était un site fait par un Turc en France. Contestation de crime contre l'humanité, c'est quand même un contenu qui pourrait paraître illicite. Non, non. L'hébergeur a eu le droit de le laisser. Donc, l'interprétation des juges semblait être assez, assez cool là-dedans. Enfin, d'autant plus que la loi punit une demande abusive de retrait de contenu. C'est-à-dire que si je suppose par exemple, je vais demander que tel contenu est illicite en disant que c'est une diffamation, alors que je sais que c'est pas vrai, je sais que c'est pas une diffamation, c'est un délit, je peux être puni. 15 000 euros d'amende, un an d'emprisonnement pour toute personne qui présente un contenu ou une activité comme étant illicite alors qu'elle sait cette information inexacte. Enfin, un point fondamental là-dedans, dans cette protection des hébergeurs, je vous demanderai de bien le retenir parce que ça jouera beaucoup ensuite sur la responsabilité des éditeurs de sites. Un point fondamental, ce qui protège l'hébergeur en réalité, c'est ce qu'on appelle sa présomption de non-connaissance du contenu. Un hébergeur, et un FAI, il n'est pas censé savoir de quoi se composent les fichiers qu'il héberge. Il n'est pas censé savoir ce que sont toutes les pages web qu'il a. Il n'est pas censé les connaître. Il est présumé ne pas les connaître. C'est ce qu'on appelle sa présomption de non-connaissance. Il ne connaît pas ce qu'il a. Par conséquent, on ne peut pas lui reprocher d'avoir un contenu illicite dont il n'a pas connaissance. C'est un point fondamental. C'est ce qui a permis au législateur européen de dire l'hébergeur n'est a priori pas responsable. Mais le raisonnement inverse marche. Lorsqu'il y a des raisons de supposer que l'hébergeur a connaissance d'un contenu, par exemple s'il offre des publicités ciblées, par exemple s'il concourt, fût-ce par un procédé automatique, à la confection des pages web, la présomption d'ignorance, la présomption de non-connaissance, elle tombe. C'est bien ce qui est arrivé récemment. Et à ce moment-là, l'hébergeur n'est plus protégé. Il est censé connaître de la page web, en l'occurrence. Et s'il connaît de la page web, il est punissable comme s'il était l'auteur de cette page. En d'autres termes, vous devez ne pas prouver que vous ne connaissez pas le contenu, d'une certaine façon, ça c'est curieux, pour être protégé. Alors ça a donné une des premières affaires du droit de l'Internet et ce qu'on appelle le paradoxe du forum modéré. Vous aviez le paradoxe du forum modéré, c'était lorsque vous aviez un forum avec un modérateur. Le modérateur, auparavant, il filtrait tous les messages et il essayait de faire que des messages illicites ne passent pas. Il était beaucoup plus responsable, puisqu'on disait qu'il était assujetti à ça, il était beaucoup plus responsable qu'un forum non modéré. Forum non modéré, qui dit je connais rien, on peut mettre n'importe quoi sur mon forum, je m'en fous, je modère pas. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du forum modéré. Le modérateur, si vous essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'illicite sur votre forum, vous avez plus de chances de vous faire condamner que si vous ne faites rien. Vous aviez un réseau aux États-Unis qui se vantait, enfin qui avait comme élément publicitaire d'être un réseau propre où il n'y avait pas de pédophilie. Dès qu'il y a eu une demi-image pornographique, le réseau a été obligé de fermer, puisqu'il s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas la moindre image porno sur son site. Alors qu'à côté, d'autres réseaux qui n'avaient jamais prétendu ça ont pu continuer à voir toutes les photos les plus dégueulasses. Ça posait absolument aucun problème. Sachez que ce paradoxe du forum non modéré, gardez-le bien en tête, car c'est effectivement ça ce qui vous protège aujourd'hui. Ce qui protège un hébergeur, ce qui protège un administrateur de site, un webmestre, un CISOP, c'est ça. C'est de pouvoir dire « je ne savais pas, monsieur le juge ». Avant qu'on en vienne à la responsabilité des webmestres, un point quand même sur un élément qui est souvent ignoré, qui est le droit de réponse. Toute personne, c'est dans la loi sur l'économie numérique, article 6.4, toute personne nommée ou désignée dans un site web, un service de communication publique, dispose d'un droit de réponse. Alors, ce droit de réponse, il doit être transmis à l'éditeur du site. Mais, si le site est un site personnel, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que le site ouvert, on n'était pas obligé de donner ses coordonnées personnelles sur le site, on pouvait simplement donner celles de l'hébergeur. C'est à l'hébergeur, à ce moment-là, de transmettre au titulaire du site le droit de réponse qu'il aura reçu. Vous m'avez suivi ? Je vous répète, hein, si le site est anonyme, c'est l'hébergeur qui va recevoir le droit de réponse et c'est à lui de le transmettre au titulaire du site. Le droit de réponse est quelque chose de violent. Je veux dire par là que les délais sont très brefs. C'est 3 jours, à partir du moment où le droit de réponse a été reçu, pour être publié. Donc l'hébergeur a intérêt à faire fi ça et à vite répercuter le droit de réponse au titulaire du site. Sinon, il sera lui-même tenu pour complice de l'infraction de non-publication de droit de réponse. Alors, pour exercer un droit de réponse, il faut donc un certain nombre de choses. Il faut donc qu'on ait été visé ou désigné. Il faut donc une justification d'identité, le passage exact et un texte du droit de réponse qui, alors, a ceci d'amusant qu'il est rédigé, dont les spécifications sont rédigées pour la presse écrite. C'est-à-dire que donc, ce texte peut faire au minimum 50 lignes et au maximum 200 lignes dans la même typographie que le texte litigieux, celui qui donne lieu à l'ouverture du droit de réponse. Plus simplement, je ne vais pas vous assommer avec ça, il me semblerait opportun que GlobeNet mette en place une petite page récapitulative de cela, de ce système, du droit de réponse d'une part et du signalement de contenu illicite d'autre part, de façon à ce que je vous dise là, ça apparaisse plus clairement et plus simplement que dans une communication orale. En tout cas, c'est ce que je vous recommande. Sinon, ce genre d'affaires, normalement, ça se produit jamais, hein, mais le jour où ça vous arrive dessus, c'est toujours quand même très très emmerdant. Et ça finit toujours par arriver, en fait. Enfin, une dernière chose, donc, qui m'avait été demandée, c'est le problème spécifique des administrateurs systèmes et des webmasters. Alors, je voudrais vous dire, s'il y a ici des webmasters dans cette salle, des webmasters ou des administrateurs systèmes, il y a une autre chose qui est très très importante à faire lorsque vous avez un site dans lequel vous n'avez pas un contrôle éditorial absolu. C'est de mettre en place un règlement intérieur ou des conditions générales d'utilisation du site. Sinon, la fameuse présomption de non-connaissance dont je vous parlais tout à l'heure, ben, vous n'en bénéficierez pas. Donc, la première chose à faire lorsque vous êtes webmaster ou administrateur, c'est de dire « voilà mes conditions d'utilisation ». Ça, j'ai un contrôle éditorial, ça, je n'ai pas de contrôle éditorial. Pour mémoire, un administrateur système vérifie la bonne marche technique du système. N'a pas à connaître de la teneur des contenus. Il est assujetti au secret professionnel. C'est lui qui vérifie que les bécanes tournent. Je simplifie un comme ça. Attention néanmoins, un administrateur système peut, même à raison de son activité technique, être amené à connaître d'activités ou de contenus illicites. Et à ce moment-là, il a le devoir de réagir, il a le devoir de le signaler à, on dit sa hiérarchie, mais enfin à d'autres personnes responsables du site. Un webmaster, lui, il connaît des contenus, c'est lui qui les met en ligne. Il exerce le contrôle éditorial sous la responsabilité du titulaire du site, si ce n'est pas lui-même. Et normalement, il est présumé avoir le contrôle éditorial sur tout. Donc, s'il y a une responsabilité, s'il y a un contenu illicite, c'est pour sa pomme. En effet, a priori, un éditeur de site, ce n'est pas un hébergeur. Hein. Donc, c'est la responsabilité éditoriale classique de la loi du 24 juillet 1881. Voilà, dire tout ce qui se passe sur le site, normalement, c'est votre responsabilité. Donc, vous avez des possibilités de vous en exonérer, notamment grâce à la jurisprudence du forum. Il a été admis que un post dans un forum non modéré, par un tiers, n'entraînait pas la responsabilité de l'éditeur du site, bref, du webmaster, tant que celui-ci n'en avait pas connaissance. Ça ne résulte d'aucun texte de loi, c'est purement une interprétation judiciaire et juridique de l'intention de législateur européen. Vraiment très fragile. Mais néanmoins, ça marche quand même, semble-t-il. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est très important, ça veut dire que si vous pouvez, en tant que webmaster, démontrer qu'un contenu a été mis en ligne sur le site alors que c'est un espace libre que vous avez ouvert, vous avez laissé pour ça donc un forum, vous déclarez non modéré, vous avez une chance d'échapper à la responsabilité de... Vous avez bien une chance, hein, d'échapper à la responsabilité pour ce contenu. Néanmoins, ça ne marchera pas forcément à tous les coups et c'est pour ça que je vous recommande d'avoir des conditions d'utilisation de site bien claires et bien définies. Parce qu'en Internet, même particulièrement en Internet comme ailleurs, les juges sont un peu comme la nature, ils ont horreur du vide. Il leur faut toujours un responsable. D'autant plus qu'en matière d'infraction de communication ou de presse, le principe remonte à 1829. Depuis 1829, il faut absolument un responsable à une infraction de communication. Même si le responsable est innocent. Je vous rappelle que l'auteur d'une diffamation, encore une fois, c'est pas la personne qui l'a écrite. C'est la personne qui l'a publiée. Aujourd'hui, si vous publiez le texte de quelqu'un qui est mort, mais qui est une diffamation, vous serez condamné comme auteur de diffamation. Beaucoup de petites subtilités comme ça qu'on ne connaît pas dans notre droit. Alors, aujourd'hui, ce qui sauve pour le moment, c'est que les procédures, ça coûte assez cher et que les tribunaux sont assez engorgés. Mais sachez quand même que il n'est pas impossible qu'un jour... des systèmes répressifs plus rapides et plus simples se mettent en place et commencent à tenter un peu de réguler plus violemment l'Internet que c'est aujourd'hui le cas. Sachez quand même que d'un autre côté, les craintes sur Big Brother sont un peu exagérées concernant le log des données. La Chine emploie 30 000 personnes pour surveiller son Internet. La France doit en employer à peu près une quinzaine, pas beaucoup, donc... le fait qu'on logue des données ou qu'on les garde, c'est une croissance quantitative. Mais jamais l'accroissement quantitatif d'un stock de données va donner un accroissement corrélatif de la connaissance, moins encore de la compétence. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il n'y ait pas un arrière-pensée économique dans l'idée de conserver ces données. Vaudront certainement un petit peu d'argent, même au bout d'un an, puisque en fait, les détruire, ça signifie simplement les anonymiser. Mais ensuite, ça permet d'établir des modèles de comportement qui valent un petit peu d'argent. En fait, n'oubliez pas, à mon sens, que la vraie finalité de ces lois, c'est pas tellement de faire, dans mon expérience personnelle en tout cas, du Big Brother politique, c'est plutôt à rechercher dans la mise à disposition de ces lois aux seules personnes pour lesquelles elles ont une valeur immédiate d'usage, c'est-à-dire les sociétés d'auteurs et les groupes d'ayant droit. L'industrie de l'entertainment, c'est la deuxième industrie américaine. Aucune industrie n'a progressé autant en valeur ajoutée au cours des 20 dernières années que l'ensemble des industries fondées sur la propriété immatérielle, la propriété intellectuelle. Bon, ces agents économiques ont besoin d'outils juridiques pour mener des combats qui ne sont pas forcément des combats d'arrière-garde, comme la récente loi d'ATSI l'a démontré. Voilà, je vous remercie.